première partie en compagnie d'une grande dame des lettres américaines, reconnue comme l'une des plus grandes plumes du journalisme de la deuxième moitié du XXe siècle, auteur de deux romans dont l'un a paru en 2014 en France. Nous l'avons rencontrée lors de son passage il y a quelques jours à Paris. Elle était invitée du festival Livre et Musique à Deauville. Elle a voyagé pour nous. Elle s'est arrêtée dans la capitale où nous avons pu la croiser. Bonjour Renata Adler.
Bonjour Claudine.
Et bienvenue à la grande table. Les Français vous ont découverte, Renata Adler, avec un roman qui a été publié initialement en 1976, qui a été traduit aux éditions de l'Olivier par Céline Leroy et qui est apparu en 2014 sous le titre Hors-bord. Mais donc ce roman est resté longtemps inédit en France. Vous en avez écrit un second qui n'est pas encore traduit. Qu'est-ce que ça fait de voir son roman traduit 40 ans après, quasiment 40 ans après l'avoir écrit?
You know, it's the same. It's very much the same as it was then.
C'est à peu près la même chose que ce qui s'était passé alors quand ils ont été publiés. Les livres pour moi n'ont pas changé, mais c'est étrange parce que ma première langue, parce que ma famille était des réfugiés, donc ma première langue c'est l'allemand. Donc quand je suis allée en Allemagne, et là en fait le public est très sage en fait pendant ces festivals littéraires, j'ai écouté cette traduction. J'avais une grande confiance dans cette traduction. Je connaissais cette traductrice, je connaissais son mari qui était un homme très célèbre, mais je n'avais jamais regardé cette traduction, je ne l'avais pas non plus écoutée. Puis tout d'un coup, j'ai entendu cette voix qui était la mienne en allemand traduit et ça n'avait rien à voir avec ma prose et mon roman tel que je l'avais compris. C'était quelque chose de totalement étranger, je me suis sentie extrêmement gênée. Et je me suis dit à ce moment-là, quand on lit des choses en traduction, combien de fois ne comprenons-nous pas du tout ce que l'écrivain a voulu dire, hein? Alors ici en France, je ne sais pas, on m'a dit que la traduction était très bonne et Céline donc est en train de terminer la traduction du deuxième roman qui s'appelle Pitch Dark. Mais j'ai un autre livre en fait qui est sorti en fait aux États-Unis, qui était un livre de non-fiction.
Quelle est la place, Renata Adler, de la littérature dans votre vie? Mais pas de la littérature en tant que lectrice, de la littérature en tant qu'écrivain. Vous avez écrit donc deux romans, un livre de non-fiction, plusieurs de non-fiction. 40 ans, c'est aussi le nombre d'années que vous avez passé au grand journal The New Yorker. Donc votre carrière, vous l'estimez plutôt comme une carrière de journaliste. Vous n'aimez pas spécialement les étiquettes. Et quelle est la place de l'écriture littéraire, disons, dans cette vie de journaliste?
Oh well, you see, I wasn't going to be a journalist at all.
Je ne pensais pas être journaliste. Je suis arrivée au New Yorker. J'étais étudiante. J'avais été une étudiante plutôt solitaire, assez timide. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvée là, au New Yorker. C'était un endroit extrêmement excentrique à l'époque, dans les années 60-70. Et donc, on m'a donné, en fait, un des livres à critiquer dans la rubrique littéraire. C'était bien, ça m'intéressait. C'est pas plus que ça, mais ce que j'admirais énormément auquel je n'avais jamais pensé, c'était les reporters, les journalistes. Et à l'époque, au New Yorker et au New York Times, j'ai eu beaucoup de chance, parce que ces années-là, c'était les années donc de la lutte pour les droits civils aux États-Unis dans le Sud. Et j'ai dit à quelqu'un que je voulais aller en Alabama. Il m'a dit oui. Et je n'avais jamais fait de travail de journaliste et de reporter auparavant. Donc je me suis habillée. À l'époque, on portait des bas. Donc j'ai mis des hauts talons. J'ai mis des gants pour aller donc à cette manifestation en Alabama, ce qui était absolument ridicule. Et évidemment, j'ai n'arrivais pas à trouver une chambre d'hôtel parce que j'avais cette air d'une femme du Nord qui était là pour fouiner en fait. Et ce qui était formidable à ce moment-là, c'est que vous aviez vraiment la possibilité, comme journaliste, de faire un reportage sur le bon côté était indéniablement le bon côté et la mauvaise indéniablement le mauvais côté. Et donc les premières années de ma vie, aussi, donc, j'ai couvert un mouvement qui était absolument formidable en lui-même et qui a fini par vaincre. Hein. Bon, beaucoup de gens ont parlé de racisme et le monde d'aujourd'hui est très, très différent. Et ils ont gagné, enfin, plutôt, nous avons gagné, en fait, hein, si l'on peut dire. Et plus tard, par exemple, je suis allée à la guerre au Biafra, et là, les gens qui avaient raison ont perdu, hein, et ils ont perdu terriblement. Mais alors, j'étais déjà journaliste, hein, donc c'était possible d'encaisser ça, et j'étais heureuse d'y être allée de toute façon au Biafra.
Quand vous dites on nous donnait la possibilité à ce moment-là d'aller faire des reportages sur place, vous entendez quoi par possibilité ? C'est-à-dire que vous aviez des moyens, vous aviez le temps, vous aviez la liberté, ça voulait dire quoi ?
You know that now that you mention it, it means nothing.
Maintenant que vous me reposez la question, ça veut rien dire en fait, hein. Rien du tout.
I mean, it was the New Yorker in those days. You see, so the New Yorker.
J'étais au New Yorker à cette période-là, donc c'était un journal tellement excentrique que, par exemple, un journaliste pas particulièrement bon, hein, s'était arrogé l'Afrique. Voilà. Donc j'avais beaucoup de chance, hein, que personne ne s'était intéressé au Sud et personne n'a fait d'engagement. Les gens qui ont été engagés en même temps que moi avaient été engagés à l'unique condition de ne pas être payé. Hein. Donc c'était un boulot très très étrange. Hein. C'était un peu comme être un outsider. Et tout ce qu'on avait besoin, c'était de dire oui. Et au fur et à mesure que j'ai vieilli et que j'ai eu d'autres jobs, par exemple, quand j'ai été critique de film au New York Times, hein, et il y avait le même critique depuis 27 ans, il n'était pas jeune. Et donc, ce qu'il considérait comme important, comme critère pour les films, hein, c'était que ça devait être un film hollywoodien, ça devait être un film long, ça devait être un film important. Et donc, évidemment, on a eu Bonnie and Clyde, Truffaut, Godard. Tous ces gens-là sont arrivés à ce moment-là et ce critique ne les aimait pas. Donc, évidemment, le New York Times, à ce moment-là, hein, pouvait ignorer complètement ces films si le critique ne les aimait pas. Et puis, c'était le début du changement quand même. Et donc, le New York Times a dit, voilà, il faudrait qu'on prenne quelqu'un de nouveau. Hein, et j'étais jeune, donc ils m'ont engagée. Et puis, donc, ça a vraiment été un problème, hein, parce que les gens se disaient, mais c'est qui celle-ci, etc. Et puis finalement, ils m'ont gardé.
Donc vous avez été critique littéraire, critique cinématographique, Renata Adler, et puis grand reporter, vous le disiez. Et puis de l'autre côté, donc, écrivain de livres, de non-fiction et aussi de fiction. Je vais donc reformuler ma question de tout à l'heure. Est-ce que pour vous, l'écriture de critique, de reportage et de fiction participe du même rapport au métier, ou même du même métier, où vous avez abordé ces trois faces de votre parcours professionnel de façon extrêmement différente, complémentaire, parfois opposée.
It's a very interesting question to me because
c'est une question très intéressante, en fait, parce que j'ai commencé un peu à l'envers, hein, puisqu'au départ, on travaille à l'édition, puis on est critique, puis on est reporter, et moi, j'ai fait l'inverse. Mais je me dis que, effectivement, si on a vraiment raison, et c'est ce que j'avais en tête à cause de mon enfance, hein, si on lit tout le temps, on devient critique. Et il faut parler de critique positive. C'est pas juste de ne pas avoir essayé. Par exemple, si on critique la danse, on n'a pas besoin d'avoir été danseur, on n'a pas besoin d'être musicien pour être critique de musique. Mais d'une certaine manière, c'est pas la même chose quand on est critique de livres. Et je pense que je m'intéresse davantage à la fiction. C'était pas forcément le cas à l'époque, mais c'était c'est une mixture bizarre, parce qu'à l'époque, et en tout cas ça n'a pas l'air d'être vrai en France, mais à mon époque, aux États-Unis, le journalisme était tellement en déclin les journalistes tout d'un coup sont devenus des célébrités, ils faisaient moins attention à ce qu'ils écrivaient. Puis il y a eu l'histoire du Watergate avec cette destruction absolue du journalisme. J'attaquais beaucoup, je disais voilà, ça c'est une bêtise, etc. Mais d'une manière, une histoire pour un journaliste, en fait, un journaliste qui dit voilà, ce que vous avez lu hier comme reportage n'est pas vrai, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Et j'ai trouvé en fait que dans la fiction, il y a des choses qu'on peut dire qui sont vraies et qu'on ne peut pas dire dans l'écriture journalistique ou en journalisme. Donc, pour moi, en fait, ce mélange de la fiction, de la non-fiction, de la critique, c'est que en fiction, j'ai pu écrire ce qu'on ne pouvait pas écrire dans le reportage journalistique. Et c'est vraiment une question qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous écrivez de la fiction ?
Ça m'est arrivé. Ah,
je suis sûre que vous en écrivez. Et c'est pas la même personne, en fait, qui écrit. Quand vous n'êtes pas la même personne quand vous écrivez de la fiction ou pas de la fiction. Et vous pouvez dire ça, c'est de la fiction, ça peut être la vérité, pour vous. Et les gens, par exemple, qui, quand on dit que c'est de la fiction, ça devient de la fiction et ça doit être lu en tant que tel. Mais les journalistes disaient, voilà, nous, voilà, ça c'est les faits, c'est la vérité, mais c'est pas forcément ça. Par exemple, Gorge Profonde est devenu un personnage absolument clé du Watergate. Donc il y a cette interrogation à voir sur qu'est-ce que la vérité quand on écrit du journalisme.
Vous posez cette question, Renata Adler, de la vérité dans le journalisme par rapport à la fiction, et vous vous référez à ces affaires qui datent des années 70 et qui ont été les affaires les plus importantes de révélations journalistiques. Depuis, il y en a eu une autre, en tout cas très récente cette fois, dont on parle beaucoup, en tout cas ici en France, puisqu'elle est présentée comme la plus grande fuite dans l'histoire du journalisme. Je veux parler des Panama Papers. Oui. Est-ce que cette question de la vérité se pose de la même façon quand on est face à ces révélations aux États-Unis? Comment vous, Renata Adler, vous avez accueilli ce qui est présenté comme des révélations uniques dans l'histoire du journalisme?
It's very interesting to me, but I am not.
C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais je ne suis pas encore complètement accrochée à cette question des Panama Papers. Je suis toujours restée avec Edward Snowden. Parce que quand Snowden a commencé à parler, quand il a commencé à occuper la posture qui était la sienne, c'était la première fois que j'étais en désaccord avec des amis avec lesquels j'avais toujours été d'accord. Il n'y en a pas tant que ça. J'ai pensé que Snowden était un héros et que c'était un journaliste. Et je ne comprends pas forcément très bien les Panama Papers, d'ailleurs, qui les comprend, vraiment. Mais Snowden était vraiment une personne que je pouvais comprendre mieux, en fait. Les gens disaient, c'est un espion, je pense que ça n'a pas d'importance, je ne pense pas qu'il en soit un, d'ailleurs. Mais c'était l'idéal de ce qu'un journaliste devrait être, si ce n'est que le journalisme n'était pas sa profession. En fait, sa vocation peut-être, mais les Panama Papers, c'est quelque chose de très très intéressant. Est-ce que c'est le début de quelque chose qui va se passer tout le temps? Est-ce qu'on va avoir des fuites comme ça avec des documents qui nous arrivent? Parce que j'adore les documents de toute façon. Je ne sais pas comment c'est en Europe, mais aux États-Unis après le Watergate, tout d'un coup, les sources anonymes. Et c'est devenu presque fictionnel, des personnes comme ça. Et des gens qui, pour une raison ou une autre, se cachaient. Et des documents, en fait, me rassuraient davantage. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux montrer? Voilà, peu m'importe, en fait, que des gens m'aient raconté des choses. Ils pourraient être menteurs tous les deux. Mais un document, c'est un document. C'est quelque chose de tangible. Donc, d'une certaine manière, en fait, je ne sais pas comment faire avec cette espèce de flot de documents qui nous est arrivé. Je ne sais pas comment on peut les lire, je ne sais pas comment on peut les analyser, je ne sais pas non plus vraiment comment on peut leur faire confiance, en fait. Et la question, c'est toujours qui, pourquoi et quelle est l'histoire de l'histoire, en fait. Et là, du coup, je ne sais pas. Alors que pour Snowden, j'avais une idée assez claire de ce qui se passait.
La question que vous posez, au fond, Renata Adler, c'est de quoi est fait le journalisme? De quelle matière doit être fait le journalisme? Est-ce qu'il est nécessaire de se baser sur des documents, sur des faits? Est-ce que c'est une histoire? Et peut-être, au fond, ce qui relie votre trajectoire, critique, reporter, écrivain, c'est vous, c'est-à-dire la façon dont on peut utiliser le jeu, l'émotion, la place de l'émotion ou la place de la narration. À ce sujet, je voudrais vous faire entendre quelqu'un qui est à la fois un très grand critique et un très grand écrivain. C'est Daniel Mendelsohn, auteur des Disparus, auteur d'un très beau livre de critique qui est un éloge de son métier de critique, qui a paru en français sous le titre « Si beau, si fragile ». Nous l'avions reçu à la Grande Table, c'était en 2011. Écoutez-le.
D'ordinaire, je pense que les meilleurs articles que j'écris, c'est une réponse ou une réaction à une émotion, à une confusion émotionnelle, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. On ne sait pas exactement pourquoi. Par exemple, dans le cas de l'essai que j'ai écrit sur Volver, j'ai vu le film et je ne l'ai pas vraiment aimé. Mais il y a quelque chose qui revenait, j'y pensais sans arrêt. Et pour moi, c'est toujours le point de départ d'un essai productif, parce qu'il faut lutter avec soi-même et comprendre pourquoi ai-je cette réaction. Parfois, on change d'avis. Je crois que c'est la chose la plus importante qu'un critique puisse dire, d'ailleurs. Souvent, je reviens sur quelque chose et je me dis, bon, ça commence toujours avec une sorte d'émotion. Un inconfort, c'est un petit bouton qui vous démange. Mais c'est très important de parler des aspects émotionnels du travail. Et c'est un avantage de la tradition anglo-saxonne. Il y a une grande tradition de la langue anglaise, de l'écriture en langue anglaise, où on s'établit comme le « je ». Mais ce faisant, on le fait en tant qu'individu, si vous voyez ce que je veux dire. Vous n'êtes pas simplement un résidu d'éducation ou un sac d'éducation.
Renata Adler.
Alors, j'admire certaines choses qu'il a écrites, Daniel Mendelsohn, mais je dirais que pratiquement chacun des mots de cette interview m'est absolument étranger. Nous sommes tous différents, nous avons tous des goûts différents, mais ce qu'il disait là, ce n'est pas ma conception, l'essai n'est pas ma conception du journalisme, le rôle de l'instinct avec lequel il joue est différent pour moi. Peut-être je le lirai, mais j'ai l'impression que nous exerçons une profession différente. Je dirais que d'une certaine manière, c'est un discours que je pourrais contester mot par mot. Et je crois que si vous ne vous attaquez pas à quelque chose qui est là à l'extérieur, à quoi ça sert et pourquoi mettre de la fiction? Et c'est amusant que les reporters que j'ai tellement admirés, que j'admire encore, ceux auxquels on peut vraiment faire confiance, sont les correspondants de guerre authentiques. Parce que ce qu'ils font quand ils sont bons, c'est qu'ils vous disent simplement ce qui s'est passé. Et avec un peu de chance, sans arriver à trop distendre la réalité. Par exemple, évidemment, les deux bords qui s'opposent dans une guerre sont enclins l'un comme l'autre à dire que l'autre bord tue des enfants. Mais moi, ce que j'aime savoir, c'est savoir si on peut partager un certain nombre de standards sur la vérité qui sont pas simplement un slogan. Et je dirais que le type de reportage que fait Mandelson, c'est quelque chose qui est très attendu d'une certaine manière. Je n'ai jamais réussi à écrire. Alors, il y a beaucoup de choses en fait que j'ai jamais réussi à écrire.
Et pourtant, il y a aussi beaucoup de choses, Renata Adler, que vous avez écrites. Beaucoup de choses que vous avez réussi à faire, même des reportages sur des sujets aussi variés que le Biafra, vous en parliez, que Harlem, que la Nouvelle Gauche, la thérapie de groupe, la musique pop, le Sunset Trip, le Vietnam, la guerre des six jours. À chaque fois, ça partait du coup des faits, de l'extérieur, de ce que vous observiez, de ce que vous voyiez devant vous, et pas de vous alors.
Il y avait une forme qu'on appelait au New Yorker qui s'appelait le profil, hein, et j'avais le sentiment que je ne pouvais pas écrire ces profils. Le travail de journaliste, pour moi, de reporteur, était alors, par exemple, voilà, on parlait d'une manifestation, on pouvait dire que ça s'est passé le dimanche, le lundi, et il y avait d'autres choses qui découlaient de ça.
Profile. You said you
vous parliez des profils.
Alors, c'est vrai que je ne pouvais pas écrire ces profils. Hein. Je prétendais que je pouvais le faire, mais je ne pouvais pas. Et je n'étais pas très douée non plus pour faire des interviews. Hein. Quand je suis arrivée au New Yorker, j'étais toute jeune, et il y avait un acteur très bavard. On m'a envoyé lui faire une interview pour un article très petit. Il m'a dit « Comment allez-vous ?» Je lui ai dit « Comment allez-vous ?» Et je n'arrivais pas à trouver quelque chose à lui demander. Donc, il a vu qu'il y avait un problème et donc il m'a aidé. Il m'a dit un certain nombre de choses. Et puis, j'ai trouvé cette technique complètement dingue. J'utilisais le dernier mot qu'il avait juste fini de prononcer pour refaire une question. Et donc, la dernière chose qu'il avait dit, c'était « J'ai hâte de rentrer en Angleterre, voir mes deux fils. » Et je lui ai dit « Mais vous avez deux fils ?» Il m'a dit « Oui. » Et je lui ai dit « Deux fils ?» Et il a ri et il m'a dit « Ça fait combien de temps que vous êtes journaliste ?» Et c'est quelque chose que j'ai appris très vite. Mais suivre une situation et suivre les gens, c'est quelque chose d'absolument incroyable parce que ça finit par se mettre en place et puis c'est comme un jeu, mais il n'y a pas tellement de lutte là-dedans. Et dans les essais, on va dire que c'est peut-être que j'ai forgé un point de vue que j'ai peut-être pas ou non plus des idées sur tant de choses. C'est peut-être pour ça que j'ai commencé à être critique de cinéma, parce que tout le monde s'en fiche en fait de ce que les gens pensent sur un film ou un autre. Mais voilà, j'aimerais arriver à pouvoir faire ces reportages, mais voilà, Mandelson sait faire.
Renata Adler, vous avez l'air ravie d'écouter cette chanson des Beach Boys, Farmer's Daughter. C'est vous qui avez souhaité l'écouter.
Et voilà pourquoi, en fait, ça remonte à loin. J'étais donc critique de films au New York Times, et donc on écrit ses critiques tous les jours sur ces films. Et puis un jour, j'ai eu une lettre d'un homme qui s'appelait Wilson, et qui m'a dit, voilà, j'ai ses fils, et j'en suis très fière, et je suis tellement contente que vous en ayez parlé dans votre article. Et c'était les Beach Boys. Et c'est incroyable, c'est comme si le père des Beatles m'avait dit merci de mentionner mes fils. Hein. Et donc, évidemment, voilà, j'en suis arrivée à faire des critiques musicales, et particulièrement les jeunes sur le Sunset Strip. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance aussi en musique, hein, parce que c'était vraiment une époque incroyable. Voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de très bonnes musiques hein, qui sortaient, et beaucoup de jeunes, bien sûr, évidemment, qui se droguaient, qui écoutaient la musique. Mais les Beach Boys doivent toujours avoir cette lettre, hein, quelque part, qui dit « Merci d'avoir mentionné mes fils ». Et puis, ce qui reste des Beach Boys, d'une certaine manière, a fait un comeback, mais c'est incroyable que vous ayez réussi à trouver cette chanson. J'étais sûre que vous n'alliez pas la trouver.
Ça, c'est la magie de la discothèque de Radio France, Renata Adler. Si vous écriviez encore au New York Times aujourd'hui, sur quel sujet vous aimeriez écrire ? Est-ce que la campagne américaine vous intéresse particulièrement ? Est-ce que vous aimeriez suivre Trump ? Est-ce que vous aimeriez suivre les candidats, Hillary Clinton, Bernie Sanders, le phénomène Sanders ? Qu'est-ce qui vous intéresserait ?
Peut-être que les vieilles personnes ont ça. J'ai le sentiment que nous arrivons au bout d'un récit. Hein. Il a eu des hauts, il a eu des bas, mais ce récit, aux États-Unis, en tout cas, plus de 200 ans de civilisation sont en train de se terminer d'une manière très étrange. Les gens, voilà, peut-être que c'est effectivement le sentiment qu'ont les personnes âgées, mais je pense qu'il y a des signes très clairs sur le fait que cette vie que nous avons partagée est en train de toucher à sa fin. J'enseignais à l'université de Boston et il y avait un professeur qui était absolument fantastique, un peu ennuyeux et pas facile, mais bon, c'était une amie. Elle a écrit un livre brillant sur le nationalisme, pas facile et un peu ennuyeux. Elle en a écrit un également sur le catholicisme. Et puis, il y a eu plein d'années se sont écoulées et on n'avait plus de contact. Et quand j'ai eu le sentiment que le monde était en train de changer, je l'ai appelé hein, après ces années de silence et au lieu de lui dire « Comment vas-tu ?» et je lui dis « Bon, c'est fini, non ?» et elle m'a dit « Oui ». Elle ne m'a pas dit « De quoi tu parles ?» ou rien du tout. Et je lui ai dit « Dans ton livre, il y avait toutes les raisons hein, pour ça. » Elle m'a dit « Oui ». Et je lui ai dit « Alors, qu'est-ce qu'on doit dire à nos enfants ?» Elle m'a dit « Eh bien, on leur cache. »
C'est le mot de la fin ?
I mean that it will be a kind of barbarism. In fact,
non,
I thought of writing a piece.
Ça s'arrête là, que ça devienne une espèce de barbarie, peut-être. J'ai pensé écrire un article là-dessus dont le titre serait.
Pretending you're walking through a dark place and you're very frightened.
C'est une expression qu'on utilise lorsque on a peur et qu'on siffle dans le noir pour se donner du courage. J'avais envie d'écrire cet article qui s'appelait Brontosaure.
Merci beaucoup, Renata Adler. Merci d'être venue au micro de La Grande Table. Merci à Pascal Fougère qui a assuré l'interprétation simultanée de vos propos. Je rappelle qu'on peut lire en français, hors bord, dans une traduction de Céline Leroy, parue aux éditions de l'Olivier.
Radio blast and goes cruising just as fast as she can now. And she'll have fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away.
Fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away.
Well, the girls can't stand her cause she walks, looks and cries like an ace now.
You walk like an ace now, you walk like an ace.
She makes the Indian